Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour Dominique Marta Ferrari.
Merci d'accorder à Divergence un peu de votre temps précieux et nous sommes très
Merci
très heureux
vous
de vous avoir en ligne. Alors vous êtes avocate au cabinet Huglot Lepage que vous avez co-créé en 1978. Vous êtes spécialisée bien sûr dans le droit de l'environnement, mais depuis comme les chats, vous avez eu de nombreuses vies. Bien sûr, vous brillez dans votre profession et votre cabinet devient incontournable après l'affaire de l'Amoco Cadiz, de votre lutte contre le nucléaire, les méfaits de l'Erika, les pesticides, j'en passe. Et puis vous êtes aussi une femme politique. Ne vous reconnaissant pas dans le Parti Vert, vous participez à la Fondation de Génération Écologie avec Brice Lalonde, puis vous créez votre propre parti, Cap 21, adoptant définitivement une position centriste. Vous corrigerez hein, tout ça si ce n'est pas tout à fait ce que vous
non,
en pensez.
C'est juste, je n'ai rien à dire.
Ensuite, vous avez été ministre, auteur de la fameuse loi LAURE, la loi sur l'air, dont nous allons parler ensemble, bien sûr, puisque c'est un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui. Puis, vous serez députée européenne à la tête de la liste Modem de François Bayrou. Enseignante aussi. Enfin, je viens de dresser un parcours en raccourci car vous avez défendu mille et une causes, dont parfois celle de la presse contre la mainmise de l'Empire Bolloré. J'en ai fait l'expérience.
Absolument.
Alors aujourd'hui.
Merci de votre confiance.
Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler, reparler des pesticides, de vos colères face à l'inaction, de mesures qu'il serait urgent de prendre. Et aux dernières rencontres internationales sur l'air et la santé qui se sont déroulées en février à Toulouse, vous déclariez « Les statistiques nous disent que les polluants que nous mesurions ont baissé, mais il en apparaît d'autres, comme le PFAS ». Et la pollution par l'air reste la première cause de nos morts prématurées. Peut-on s'attarder quelques instants sur cette déclaration ?
Oui, volontiers. Les progrès de la connaissance font que les normes ont tendance à baisser. Certaines pas suffisamment vite, mais enfin ont tendance à baisser. Le problème est que, un, nous ne connaissons absolument pas les effets de ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire la multiplication des polluants à un même endroit et sur un même corps. Et deuxièmement, nous voyons apparaître de nouveaux polluants dont nous ignorions l'existence, comme les PFAS, qui ont pour double caractéristique d'être dits éternels, c'est-à-dire très difficiles à détruire, et deuxièmement, d'être extrêmement nombreux, plus d'un millier de molécules différentes.
Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un PFAS ? Parce qu'on en parle beaucoup, frère, mais finalement,
Les PFAS, c'est des molécules par exemple, viennent des, pour ne pas les nommer, des poils Tefal, hein, et de toute une série de produits qui sont utilisés, qui sont des molécules extrêmement résistantes et qui sont faites pour cela, justement pour résister.
Et alors, elles font quoi sur notre corps ?
Ben, on est au début des études, mais là, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours seulement, dont le journal Le Monde a fait état, qui met en exergue un PFAS en particulier, qui est de mémoire le PTA, dont les effets sanitaires seraient tout à fait considérables. Et il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis, qui généralement sont en avance sur nous sur ce type de sujet, qui considèrent que les PFAS sont des produits cancérigènes.
Alors, cancérigène, mais aussi, je crois, qui joue un rôle sur notre reproduction.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. C'est-à-dire qu'ils provoquent des cancers, qu'ils peuvent provoquer des mutations génétiques dans nos corps et surtout que nous les reproduisons dans les générations qui suivent.
Et alors, on s'en est aperçu de ça grâce, finalement, à des travaux qui ont été faits par des écologues sur des poissons.
Oui, absolument. Alors, encore une fois, les premiers procès sur le sujet ont débuté aux États-Unis il y a déjà un petit paquet d'années. Hein. Les études ont été faites, notamment dans la région rouennaise, il y a maintenant 4-5 ans, qui ont mis en exergue ces produits. Et puis, il faut toujours beaucoup de temps, vous savez, pour que... On passe d'une étude à la reconnaissance d'un problème, de la reconnaissance d'un problème à une législation, et donc on en est au stade d'envisager une législation, en France en tout cas, puisque le Parlement est saisi d'un projet de loi.
Alors, envisager une recommandation ou une législation, mais finalement, on s'aperçoit aussi que ça peut être rétroactif. Et récemment, suite aux manifestations agricoles, et on l'avait déjà vu avec l'entrée en guerre de l'Ukraine, un coup d'arrêt semble avoir été donné par Bruxelles et par le Parlement européen au pacte vert.
Oui. Coup d'arrêt au pacte vert. Pour le moment, je serai assez mesurée. Le seul texte qui pour l'instant reste, il y a deux textes qui restent en carafe. Le premier, c'est REACH, qui est en limite du pacte vert, hein, c'est le texte sur les produits chimiques, qui a été renvoyé au calendrier grec il y a à peu près 6 mois. Et il y a un dernier texte qui a été voté par tout le monde, mais qui n'est pas publié parce qu'il n'y a pas d'accord des États, c'est le texte sur restaurer la nature, qui devrait repasser au Conseil des ministres à la fin du mois de juin, c'est-à-dire après les élections européennes. Les autres textes ont été votés. Ratiboisé, pour certains, c'est-à-dire réduit, comme par exemple la directive sur le devoir de vigilance CS3D qui a été considérablement restreinte, mais enfin, les textes sont sortis. La grande inconnue que nous avons, c'est ce qui va se passer après, c'est-à-dire à partir de l'élection du nouveau Parlement. Dans le meilleur des cas, on imagine une pause, et dans le plus mauvais, on imagine que des régressions seraient envisageables.
Et il pourrait intervenir, pourtant, il semblerait que le texte qui a été adopté déjà, qui a été considéré par la Commission, par le Parlement et par le Trilogue sur les principaux polluants reconnus aujourd'hui, prouvés et dangereux pour la santé, réglementés, ont été... Enfin, on attendait cette directive, elle n'a pas vu le jour.
Ah oui, sur les phytos, elle n'a pas vu le jour, voilà. Absolument. La directive, vous avez entièrement raison, la directive phyto n'a pas vu le jour. Et à mon avis, elle n'est pas prête de le voir, vu la mobilisation des agriculteurs, qui d'une certaine manière jouent contre leur camp. Parce que les premières victimes des pesticides, c'est quand même les agriculteurs, avant d'être les voisins et les consommateurs.
Oui, mais alors justement, vous dites que les agriculteurs ont quand même progressé dans ce domaine, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à reconnaître un petit peu que les travailleurs agricoles...
Alors oui, vous avez raison, la loi de financement de la sécurité sociale de 2020 a reconnu qu'un certain nombre de maladies liées aux pesticides étaient des maladies professionnelles. C'est le cas pour 3 d'entre elles, qui sont la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et le lymphome non hodgkinien. Si vous prenez le rapport phyto que le gouvernement a publié il y a quelques semaines, vous trouverez 3 autres pathologies, qui sont le myélome, qui sont...
Donc un autre cancer,
il y a 6 pathologies. D'accord. Et des malformations congénitales. Donc voilà où nous en sommes. Et ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, malgré la pression du monde agricole, hein, et notamment de la FNSEA, qui déposent des demandes d'indemnisation. Le gros avantage de ce système, c'est-à-dire de la maladie professionnelle, c'est que vous n'avez pas à prouver de lien de causalité. À partir du moment où vous établissez que vous avez une pathologie et que vous avez utilisé les pesticides...
Pardon, on ne vous entend plus. Excusez-nous.
Oui, je dis à partir du moment où vous établissez que vous avez utilisé des pesticides et que vous souffrez de cette pathologie, vous êtes éligible à l'indemnisation, au fonds d'indemnisation.
Mais alors, ce que vous êtes, vous, en train de travailler aujourd'hui et essayer de prouver, c'est finalement ce fameux texte Pestirive, c'est-à-dire que si on reconnaît que les agriculteurs hein, qui utilisent les pesticides peuvent attraper des maladies professionnelles, finalement, on ne reconnaît pas que les gens qui sont autour... Alors, vous savez que Montpellier, on est une région de vignes particulièrement. Voilà, et que ce problème, le problème des riverains est un vrai gros problème dans la mesure où la vigne rentre dans les villages.
Bien sûr. Alors, si vous voulez, ma réflexion n'est pas de monter des procédures contre les agriculteurs. Ce n'est pas le sujet. Le sujet...
Mais vous pensez quand même qu'il faut changer peut-être un jour le monde agricole, la manière dont il fonctionne.
Ah ben, je pense que de toute façon, le monde agricole va devoir se transformer. Ce à quoi nous assistons, c'est une résistance par rapport à ce qui est en réalité inéluctable et dont beaucoup d'agriculteurs ne veulent pas, ou plutôt ne peuvent pas accepter financièrement et économiquement la transformation. C'est plutôt ça, en réalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les riverains sont, à mon avis, au moins autant, voire davantage concernés que les agriculteurs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur, lorsqu'il épand dans la vigne ou ailleurs, lorsqu'il fait sa préparation, lorsqu'il est dans son tracteur, dispose de toute une panoplie de moyens de protection. Alors, je sais bien qu'il existe beaucoup de débats sur l'effectivité, l'efficience de ces moyens de protection, notamment des vêtements. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une protection et que pendant 48 heures, on ne retourne pas dans un champ qui a été épandu. Prenez le voisin d'un champ qui vient d'être épandu, soit une vigne, un champ de blé, tout ce que vous voudrez. Le gamin qui joue l'été ou au printemps dans le jardin, il n'est pas protégé du tout. Et lui, comme sa famille, ne vont pas partir 48 heures. Donc, ils sont exposés de plein pot aux molécules, aux particules fines qui vont être exhalées depuis les produits qui ont été épandus. Alors, on va dire oui, mais il y a une zone de protection. Elle est ridiculement petite, c'est 5 mètres ou 10 mètres. C'est rien du tout. L'étude qui a été faite sur la vigne, puisque vous parliez de la vigne, et sur l'excès de cancer infantile, de leucémie, je crois, montre que jusqu'à 150 mètres, il y a, jusqu'à 1 km, pardon, jusqu'à 1 km, il y a une contamination importante, c'est-à-dire un excès de leucémie jusqu'à 1 km. Donc c'est beaucoup par rapport à 5 mètres, 10 mètres, voire mètre 20 mètres. Donc en fait, les gens ne sont pas vraiment protégés. Et donc c'est cette injustice à laquelle je voudrais m'attaquer. J'observe du reste.
Et alors comment on peut faire parce que par rapport à cette injustice, parce que il est clair que bon le système des indemnisations qui a été adopté pour les agriculteurs peut pas être adopté de la même manière pour les centaines de riverains.
Alors oui et non, ça peut pas être exactement le même, mais ça pourrait être calqué dans le rapport Phyto qui a été publié voici quelques semaines. L'État reconnaît clairement d'abord qu'il n'y a pas 3, mais 6 pathologies, et qu'il y a un problème de riverains. Et il dit, on va voir si on peut faire une étude de faisabilité, mais dans tous les cas de figure, il n'y aura pas un régime comparable qui déchargerait la victime d'apporter la preuve de sa contamination. Bon, ça veut dire que personne ne pourra jamais le prouver. Comment voulez-vous prouver que lymphome de Hodgkinien ou la maladie de Parkinson dont vous souffrez ou la malformation congénitale de votre enfant est liée à tel ou tel épandage de pesticides. C'est absolument impossible à prouver. Donc ce que je cherche, c'est un système qui permette une indemnisation automatique de ces riverains dès lors qu'un certain nombre de conditions, bien entendu, sont remplies et c'est ce que nous essayons de faire avec cette action collective que nous lançons.
Bien, alors donc, une action collective. Vous nous rappelez d'abord un petit peu ce que c'est qu'une action collective. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement, je ne suis pas sûre que le grand public sache ce que c'est. Et ça, c'est quand même, c'est vraiment un atout de l'Europe qu'on oublie parfois.
Alors, beaucoup de nos auditeurs ont entendu parler des actions de classe aux États-Unis. Les actions de classe aux États-Unis, elles permettent à un individu d'obtenir une indemnisation et ensuite tous les individus qui remplissent les mêmes conditions ont le droit à l'indemnisation correspondante. Nous n'avons pas du tout ce système ni en France ni en Europe. Nous avons des actions de classe, mais qui sont extrêmement limitées, c'est plutôt des actions de groupe qui sont offertes aux associations de consommateurs qui peuvent lancer des actions de ce genre. Sauf qu'il n'y en a pas dans le domaine qui nous occupe et en matière de santé environnementale. Donc l'idée que j'ai eue est celle de créer une plateforme d'accès très facile sur laquelle les personnes qui remplissent un certain nombre de conditions quant à des pathologies, quant à l'éloignement par rapport au champ d'épandage, plateforme sur laquelle ils peuvent venir, ils peuvent s'inscrire et donc nous allons les regrouper pour lancer une action collective donc qui regroupera tous ces individus, je pense, d'ici la fin du mois de juin.
Ah, très bien. Donc, c'est très, très important. Et là, ça pourrait influer donc le travail
C'est ce que nous espérons. C'est au moins grâce à vous et tous les médias qui veulent bien parler du sujet, montrer qu'il y a un sujet, déjà, très important.
Oui,
et ensuite, montrer à l'État qu'il faut faire quelque chose, que ce n'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est inhumain, ça a un coût pour la société absolument énorme, parce que les gens sont malades, ensuite il faut les soigner. Et c'est pas possible, il va falloir changer progressivement la réglementation. Donc je voudrais déjà faire reconnaître le droit de ses voisins à une indemnisation, et je pense en particulier à de nombreux cas qui nous ont été communiqués d'enfants. Qui souffrent de malformations ou de maladies particulières dont le lien avec les pesticides pourrait être établi.
Avant que nous parlions des puffs, c'est-à-dire des particules ultra fines un peu plus longuement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la dimension législative, puisque c'est votre propos, c'est votre ADN. Donc aujourd'hui, vous dites l'eau a par exemple déjà des réglementations. On ne peut pas donner à boire de l'eau impure à quelqu'un, il y a des lois. Maintenant, pour l'air, justement, il n'y a pas assez de lois.
Un petit mot sur l'eau. Oui, il y a des lois. Sauf qu'on se rend compte, par les études qui sortent, que beaucoup de nos concitoyens ont consommé une eau qui était excessive, ou en nitrate, ou en pesticides, ou en autre chose. Et deuxièmement, dans l'eau, aujourd'hui, on consomme les PFAS. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu aucune réglementation. Donc ça, c'est un premier point. Sur l'air, effectivement, c'est un sujet qui est très délicat. J'ai fait voter, comme vous l'avez fort aimablement rappelé, la loi sur l'air en 1996, donc ça va faire 30 ans. Loi qui n'a été que très, très, très partiellement appliquée, parce que bien l'appliquer impliquait des modifications importantes dans le domaine du transport. Notamment, je pense aux véhicules diesel, mais pas que, dans le domaine industriel, dans toute une série de domaines, avec des intérêts économiques qui, évidemment, ne voulaient pas entendre parler de ce texte. C'est la raison pour laquelle la France reste encore condamné et par le Conseil d'État et par la Cour de justice de l'Union européenne pour dépasser les normes de pollution en ce qui concerne le dioxyde d'azote et les particules fines.
Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, une autre question d'actualité qui se profile, c'est celle effectivement des particules ultra fines. Alors, on vient d'en évoquer un petit peu. Nous savons que les plus grosses, celles qui sont finalement liées au trafic automobile, ont été pourchassées et qu'elles ont diminué. Les PM10, les PM25, oui. Etc., on en a moins aujourd'hui.
Certes.
Mais comme on le dit, enfin, et comme le dit surtout donc dans le cadre de ces rencontres internationales, le vice-président de la métropole de Toulouse, François Chollet, la France semble dans un état un peu de schizophrénie, c'est-à-dire que d'un côté, elle a réduit les particules liées au transport automobile en mettant en place des plans automobiles, etc. Et puis de l'autre côté, on est en train d'entrer en ce moment dans une multiplication de la biomasse, dans une multiplication, et même nous on le vit à Montpellier par exemple, d'un incinérateur en pleine ville. Or, on sait que ces technologies sont des technologies qui crachent du puf, de la particule ultra.
Alors, c'est le sujet des incinérateurs est un sujet dont je me suis occupée à de multiples reprises, d'abord comme ministre, et ensuite comme avocate et comme députée européenne. Les incinérateurs, ça crache de la dioxine, notamment, pas que, mais notamment de la dioxine, et c'est des systèmes qui sont quand même extrêmement polluants. Alors, avec le temps, il y a des progrès technologiques qui ont été faits de telle sorte qu'ils recrachent moins et des particules beaucoup plus petites. Mais enfin, ils recrachent quand même. Ça reste un problème. Ça reste incontestablement un problème. Alors même qu'on sait aujourd'hui que les déchets, si on pense économie circulaire, c'est pas des déchets, c'est a priori de la matière première secondaire.
Bien.
Donc l'idée de les brûler n'est pas une bonne idée.
Oui, c'est effectivement un petit peu la position qu'ont prise ici sur la ville les écologistes. Maintenant, l'incinérateur, il sera sans doute mis en place et ça sera sans doute l'objet d'une lutte extrêmement importante. Alors parlons un petit peu du plan biomasse.
Alors, juste au passage, à Clermont-Ferrand, il y a une dizaine d'années, il y a des médecins qui se sont mobilisés contre un incinérateur et ils ont eu sa peau.
D'accord. Donc, rien n'est écrit, quoi. C'est ça que vous voulez dire.
Voilà, exactement.
À nous de nous bagarrer. Bien, voilà. Alors, donc, parlons maintenant de ce fichu plan biomasse. Alors, on sait qu'il est mis en question, d'une part, par les forestiers, puisque les forestiers disent « on n'aura jamais assez de bois, de toute façon, pour répondre au projet décarbonation tel que nous le propose la France ». Et puis, d'un autre côté, on sait que ces systèmes de brûlage de la biomasse font effectivement sortir beaucoup de particules fines aussi.
Oui, oui.
Et ça, l'ADEME ne semble pas l'entendre.
La question du bois est, à mon avis, une question à venir. On était parti sur l'idée que le bois était un matériau d'énergie renouvelable et donc susceptible d'être brûlé plutôt que du charbon ou du pétrole, parce qu'effectivement, le bois, c'est renouvelable. C'est vrai, c'est indéniable. C'est indéniable à ceci près qu'il faut quand même beaucoup d'années pour renouveler du bois. Et que, comme vous le dites, s'il est brûlé comme ça, sans précaution, sans système de récupération des fumées, il y a des émissions qui peuvent être toxiques. Et on le sait, par exemple, dans la vallée de l'Arve, il y a un problème de ce type. Notamment, hein, pas que, mais notamment. On voit dans les derniers textes communautaires, je vous renvoie par exemple à la directive sur les énergies renouvelables, qui s'appelle RED3, une marche arrière sur le bois, ce qu'on appelle le bois énergie. Vous avez dans cette directive, en effet, un classement du bois comme il y a un classement des déchets. Vous savez, une hiérarchie du bois comme il y a une hiérarchie des déchets. Et le bois énergie vient tout au bout. Pourquoi est-ce qu'il vient tout au bout? Parce que, d'abord, il y a des usages du bois qui sont beaucoup plus nobles que de le brûler. Et deuxièmement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait terriblement besoin des forêts pour améliorer notre stock de puits de carbone, qui est en régression considérable. Dans un monde où le réchauffement fait que les essences ne s'adaptent pas forcément, et que donc nos puits de carbone, tels qu'ils étaient évalués à partir de nos forêts, c'est une évaluation qui est complètement fausse. Or, ça a un inconvénient majeur, c'est que moins vous avez de puits de carbone, plus vous devez faire des efforts de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. D'où l'importance de gérer la forêt en fonction effectivement des avantages climatiques et plus seulement maintenant en fonction de la récupération du bois énergie. Donc que les résidus, ce qu'on appelle les coproduits du bois, c'est-à-dire les branchages, les bois qui doivent être coupés, enfin tout ça. Ça peut tout à fait être utilisé pour le bois énergie, mais d'utiliser du beau bois, du bon bois, si je puis dire, même si ce n'est pas des essences rares qui, elles, ne sont pas brûlées, évidemment, ça va se discuter de plus
en plus. Et encore, les utiliser à condition de gérer la ventilation et de ne pas inhaler...
Bien sûr, les particules fines.
Alors, par exemple, on avait Londres qui a beaucoup travaillé sur ces problèmes, disait qu'il y avait une recrudescence des foyers domestiques et de restauration, comme les pizzerias d'ailleurs, comme en France, et qu'à Londres, les puffs, enfin les particules ultra fines issues des foyers ont augmenté de 17% et se trouvent juste derrière les transports. Alors, en France, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est connu ou est-ce que encore c'est un monde encore
Je pense que Ségolène Royal, quand elle était ministre, avait commencé à aborder le sujet et j'ai l'impression que là il est tombé tout à fait dans les oubliettes.
Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, il nous reste quelques minutes. Vous attendez quoi de l'Union européenne et de la France dans le domaine
Si vous voulez, la France, ne faut pas dire qu'elle soit en progression sur les questions environnementales. Elle est en profonde régression, en réalité, depuis 2017 et singulièrement depuis 2022. Notamment sur tout ce qui est la démocratie environnementale, parce que pour le gouvernement, la simplification administrative, ça veut dire se passer des règles environnementales. C'est assez simple, mais en gros, c'est ça. Moi, j'attends toujours beaucoup de l'Europe parce que c'est l'Europe qui nous a tirés. L'Europe, c'est 80% de notre législation environnementale quand même. Donc, si l'Europe est en pause, ben, la France, qui a tendance à la régression, va être plus qu'en pause. Voilà. À un moment où, en réalité, il faudra arriver à emmener tout le monde. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que notre situation budgétaire fait que nos moyens sont très limités pour faire une transition juste. Or, la question de la justice sociale et de l'équité dans la transition est un sujet absolument majeur. Si on ne s'attaque pas à ce sujet, on ne fera pas grand-chose.
Alors, est-ce que vous croyez que... je sais, il ne faut pas qu'on parle de liste aujourd'hui, puisque on est dans le cadre des élections européennes. Mais en tout cas, on a besoin d'Europe. Ça, c'est clair. Et ça,
Bien sûr qu'on a besoin d'Europe. Et c'est terrifiant de voir la manière dont, pour des raisons qui sont politiques et électoralistes, certains tapent sur l'Europe à bras raccourcis. Je pense que c'est une très courte vue. Et quand on voit la manière dont les Anglais regrettent le Brexit, je pense que ça devrait faire réfléchir plus d'un.
Et vous croyez que on retrouvera quand même... Enfin, c'était quand même bien ce Green Deal, ce pacte vert. Il avait été conduit quand même d'une manière extrêmement difficile et longue. Et finalement, remis en question comme ça d'un revers de main. Il a suffi de quelques tracteurs pour qu'on l'abandonne. Est-ce que vous croyez qu'on va quand même retrouver quand même au moins l'esprit?
Écoutez, j'espère.
Voilà.
Mais ça dépend de nos concitoyens.
Merci Corinne et à bientôt.
Merci Dominique et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.